France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis le début du second mandat de Donald Trump, encore lui, le président américain fait appel aux affects dans des discours qui mobilisent la peur, l'angoisse, le ressentiment. Ainsi, il est récurrent d'entendre que nous vivons aujourd'hui dans une société gouvernée par les émotions. En parallèle, face aux guerres, aux drames, aux effets objectifs du réchauffement climatique, certains expriment des réactions indifférentes, lointaines, insensibles. Alors comment expliquer ce paradoxe apparent ? Quelle place doivent occuper les expériences sensibles et les subjectivités en politique? Comment l'expression des passions permet-elle la raison publique d'émerger? Une invitée ce soir, une philosophe pour nous éclairer, Myriam Revaud-Allonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, je le disais, professeur émérite des universités à l'école pratique des hautes études. Vous êtes par ailleurs chercheuse associée au CEVIPOF et vous signez ce livre passionnant intitulé « Passions publiques » qui a paru le 9 janvier dernier au Seuil. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir. Et je le disais en introduction, Myriam Revaud-Allonne, on a le sentiment que les discours politiques de Donald Trump sont saturés par l'émotion. Et dans le même temps, il fait preuve sur tout un tas de sujets, sur tout un tas de dossiers publics d'une incroyable, d'une fascinante, même si je suis cynique, insensibilité. Comment expliquer ce paradoxe ?
Alors, il faudrait peut-être, au fond, reformuler la question. Si
je vous en prie, allez-y.
Voilà. Non, pas du tout que je veux. Mais essayer de montrer en quoi, si vous voulez, c'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que la plus grande insensibilité sélective puisse s'accompagner d'une extrême sentimentalité ou d'un appel à des affects. D'ailleurs, ce ne sont pas n'importe lesquels. Dans le cas de Donald Trump, c'est des affects qu'on pourrait qualifier de négatifs, comme le ressentiment, la haine, la colère, tout ce qui touche à l'exclusion de l'autre et du différent, et au contraire, une espèce de sentimentalité. D'ailleurs, c'est même pas de la sentimentalité dans le cas de Donald Trump. C'est une espèce de, au fond, d'immédiateté incontrôlée. Je sais pas comment très bien. Je pense pas que ce soit la sentimentalité. Et en fait, on a là deux perversions par rapport à ce qu'est la sensibilité en politique. On a d'un côté une perversion qui est l'insensibilité la plus totale. Mmh. Et qui ne donne pas du tout lieu à une rationalité. Et de l'autre côté, une sentimentalité ou une sensibilité extrême et sélective qui ne donne pas lieu non plus à l'exercice de la raison. Et en fait, si on recadre un peu les choses, on devrait dire plutôt que ce qui s'oppose à la raison, et en l'occurrence à la raison publique, ce n'est pas la sensibilité, mais c'est soit l'insensibilité, soit la sentimentalité ou les effusions extrêmes. Donc il faut un peu... Au fond, on peut dire que chez Donald Trump, on a affaire à deux mobilisations qui sont affectives, qui sont toutes les deux anti-politiques.
Je le disais en introduction également, on retrouve régulièrement cette expression selon laquelle nous serions aujourd'hui gouvernés par l'émotion, gouvernés par nos propres passions. Est-ce que c'est fondamentalement une chose mauvaise que les émotions se fassent une place en politique ?
C'est pas du tout mauvais et ça ne veut pas dire du tout que la politique est gouvernée par les passions. Parce que déjà, dire que nous sommes gouvernés par les passions ou gouvernés par les émotions, d'abord, c'est introduire une opposition radicale entre la raison, mais quelle raison, on ne sait pas très bien laquelle, et d'un autre côté, tout ce qui est de l'ordre de l'affectivité ou du cœur, de la sensibilité. Donc, il y a d'abord cette première opposition qu'il faut essayer d'analyser, de remettre en balance. Et d'autre part, moi, je remarque quand même que tous les discours sur la dictature des émotions ou la tyrannie des émotions qui font soi-disant appel à la raison, au fond, émanent d'un courant qui, lorsqu'il se trouve confronté, par exemple, à des faits divers, propose des lois, c'est-à-dire propose un appel à une forme de rationalité formelle pour régler ses problèmes. Donc là, il y a une espèce de contradiction un peu étrange. D'ailleurs, l'idée, si vous voulez, quand on repense un petit peu, quand on réfléchit dans la longue durée, l'idée que la raison politique est confrontée aux passions est une idée très ancienne. C'est une idée qui date, au fond, depuis qu'on fait de la philosophie politique, depuis qu'on réfléchit sur la politique. Les philosophes grecs, Platon, Aristote, savaient, tous les théoriciens de la chose politique ont considéré que c'était un problème central par rapport justement au gouvernement et que, au fond, pour gouverner une société, il fallait faire avec les passions ou faire avec les affects. Mais justement, moi, je ne formule pas la question de cette façon. Je ne me demande pas tellement comment il faut régler ou contrôler ou gérer les passions quand on gouverne. Je me demande plutôt, par rapport à la chose publique, par rapport à la rationale publique, quel rôle positif peuvent jouer les affects.
C'est là,
et à quel, si vous voulez, à quelles conditions le domaine de la subjectivité, le domaine de l'affectivité, à quelles conditions ils peuvent nourrir la raison publique. Et ça, c'est une question qu'on ne pose pas. Ou pas véritablement.
Qu'on ne pose pas
souvent.
Et il est vrai, vous avez raison, dans la tradition philosophique, Myriam Revaud-Allonne, on rapproche très très rarement la passion et la raison. Ce que vous faites justement dans cet ouvrage intitulé, je le rappelle, Passion publique, au pluriel, et il faut préciser une chose, comment justement percevoir une émotion qui pourrait être féconde du point de vue politique? À quelles conditions une émotion peut-elle être instrumentalisée d'une manière utile et féconde dans l'espace public et politique?
Alors moi je ne dirais pas instrumentalisée, je pense que le fait qu'une passion soit instrumentalisée, c'est toujours quelque chose, au fond, qui a une connotation négative.
Dont il faut se méfier.
Il faut se méfier du mot « instrumentalisé ». Il faut se demander plutôt comment les passions ou les affects positifs peuvent soutenir la rationalité. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fin de compte, qu'on instrumentalise les passions comme la peur, la colère, l'indignation, c'est très classique. Il n'y a pas que les démagogues qui le font. On dit en général que la politique, ça consiste aussi effectivement à gouverner les passions. Et là, on se place toujours du point de vue de celui qui exerce le pouvoir. Et qui doit effectivement organiser les affects populaires ou collectifs. Et moi, je me demande l'interrogation un petit peu inverse, qui est comment ce qu'une cité ou ce qu'une collectivité éprouve, comment est-ce que, à quelles conditions est-ce que ça peut effectivement enrichir la rationalité? Comment ça peut, au fond, créer une rationalité que je pourrais appeler élargie ou enrichie, et qui ne soit pas simplement une rationalité instrumentale.
Par conséquent, je vous pose cette question, à quelles conditions une émotion peut-elle servir cette rationalité?
Alors,
que vous décrivez,
cette
rationalité élargie.
Une émotion peut servir cette rationalité élargie quand elle s'oriente vers, au fond, des émotions collectives et constructives. Par exemple, je peux prendre des exemples dans l'histoire de la philosophie, dans la tradition philosophique. Aristote, par exemple, analyse la colère. Et qu'est-ce que ça veut dire, la colère? Il dit que c'est pas forcément quelque chose de négatif, et que la colère, à la racine, elle est positive parce qu'elle a un rapport avec la justice. Et que la justice, c'est l'affect politique par excellence, puisque les hommes désirent vivre dans une cité juste. L'idéal de justice est fondamental. Maintenant, encore faut-il, effectivement, que la colère puisse se transformer, et elle peut se transformer, s'intégrer dans un projet qui est un projet qui puisse, au fond, servir la justice dans la cité. Et à ce moment-là, au fond, la colère se métabolise en quelque sorte pour donner lieu à des institutions justes. Je prends un autre exemple très contemporain, celui de MeToo. Parce que ça, c'est très intéressant. C'est peut-être l'exemple le plus abouti aujourd'hui d'un vécu individuel ou d'un ensemble de vécus individuels de souffrance liée aux violences sexuelles, aux violences subies par les femmes et qui, à partir d'expériences vécues individuelles, se sont en quelque sorte regroupées pour faire, au fond, émerger ce problème comme un problème politique. C'est-à-dire que pour faire émerger le problème de la domination masculine comme un problème politique. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu comment la chose s'est cristallisée avec le procès des viols de Mazan, ce qui fait que maintenant, quelles que soient les réactions masculinistes, quelquefois très violentes, il est évident que ce problème, comme un certain nombre d'autres problèmes, par exemple le problème de l'homosexualité, qui a donné lieu à des institutions comme le mariage pour tous, voilà, et on voit bien, c'est-à-dire qu'au fond, des vécus individuels se sont cristallisés, et on est passé en quelque sorte d'un vécu individuel à une protestation ou une demande collective qui a accédé au niveau politique.
Évidemment, vous parlez du problème perçu de l'homosexualité. On aurait dit l'enjeu de l'homosexualité en matière de politique publique. Je voudrais vous faire entendre la voix d'Axelle Jah Njike, autrice et réalisatrice de podcast. Elle parle justement de MeToo et de la façon de reconnaître ses semblables dans cette révolution.
C'est ça, MeToo. C'est d'abord et avant toute chose un cri de ralliement entre nous, entre personnes victimes, et une manière de dire « je te vois, je te crois, ça n'aurait jamais dû arriver ». Et je pense que l'intention qu'il y a derrière ce mouvement est la raison pour laquelle, 5 ans plus tard, on en parle encore. 15 ans plus tard, c'est toujours à l'ordre du jour. L'intention de départ, elle est bonne. L'intention de départ est une intention qui est pleine d'amour, en fait, parce que c'est d'abord pour nous, avant d'être à propos des agresseurs. Voilà, MeToo, c'est ça. La jeunesse de MeToo, c'est ça.
Il est intéressant, Myriam Revaud-Allon, l'exemple de MeToo, car il pose en creux deux questions. La première, peut-être, le passage de l'expérience, de l'émotion individuelle à l'action collective. Comment peut s'opérer cette bascule d'abord? Et ensuite, une seconde question, être capable, pour transformer cela en action collective, de reconnaître les autres comme ses semblables. D'autres que moi peuvent ressentir la même chose, être au fond dans une forme de lien, d'affection avec moi, qui nous incite à être mobilisés collectivement pour une cause commune.
C'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'au fond, on l'a vu dans le cas de MeToo, mais on l'a vu aussi dans d'autres situations, par exemple la lutte contre les discriminations, pour la reconnaissance de l'homosexualité. C'est-à-dire, en fait, ça c'est très positif, c'est-à-dire qu'au fond, si je pouvais parler dans le vocabulaire de Spinoza, je dirais que c'est une augmentation de la puissance d'agir. Et ça, c'est presque le critère. C'est-à-dire, on a des vécus individuels qui se rassemblent et qui se reconnaissent et qui, au fond, cette espèce de rencontre et de pluralisation, parce qu'il y a aussi la question de la pluralité qui est très importante ici, qui fait accéder le problème, je dirais, au niveau institutionnel. Parce que c'est ça qui est très important, c'est que ces revendications rencontrent les institutions politiques, et qu'elles émergent comme problème politique. Et la deuxième question, c'est tout à fait intéressant parce que on part non seulement de la sensibilité, mais on part de sensibilités qui se reconnaissent effectivement comme semblables, même si elles ne se ressemblent pas. Hein, parce que la reconnaissance du semblable, ce n'est pas la reconnaissance ou l'acceptation de celui qui me ressemble. Parce que ça, c'est un processus de fragmentation. Si je ne m'intéresse qu'à celui qui me ressemble, je me désintéresse et je suis indifférent.
Donc c'est la reconnaissance de l'altérité.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, ça c'est le deuxième point très important qui est et la reconnaissance de l'altérité, c'est pas seulement un processus intellectuel. Et là, c'est un processus de généralisation. Par exemple, chez Rousseau, on le voit admirablement, comment, à partir de la répugnance innée que j'ai à voir, dit Rousseau, souvenir, comment dire, que j'ai, la répugnance que j'ai à voir souffrir un autre être, comment, à partir de là, ça se généralise de telle manière qu'on a, je dirais, la construction d'une universalité, mais qui est partie de la subjectivité, ce qu'on pourrait appeler une universalité subjective. C'est-à-dire que des sujets, ce sont des reconnaissances collectives de subjectivité qui conduisent à une forme d'universalité et qui ensuite est reconnue par les institutions. Par exemple, bon, quand Rousseau écrit Le contrat social, bon, il décrit pas simplement ou il analyse pas simplement un dispositif abstrait juridico-politique, mais il dit qu'il faut un certain nombre de conditions pour que les citoyens soient vraiment, au fond, portés à élaborer une volonté commune. Et élaborer une volonté commune, ce n'est pas une démarche abstraite, ou pas seulement abstraite.
Estimez-vous que, malgré MeToo, la période n'est pas propice, peu propice à cela, et notamment propice à la reconnaissance de son semblable, propice à la reconnaissance également de l'altérité, telle que vous l'avez définie ?
Non, effectivement, c'est une période extrêmement difficile. Parce que c'est une période où ce qui prévaut plutôt, ce sont des processus de fragmentation. Des processus, non pas de différenciation, parce que je reconnais l'autre comme autre quand il est différent de moi, c'est pas ça le problème, mais des processus de fragmentation, de repli sur soi, et précisément de repli dans des petites communautés où on ne discute, où on échange qu'avec ceux qu'on reconnaît comme ses proches ou comme ceux qui nous ressemblent. On pense à la phrase de Le Pen. Je préfère, ma fille à ma cousine, ma cousine à ma voisine et ma voisine aux étrangers, etc.
Donc là. Donc ce sont les discours identitaires en quelque sorte.
Ah bah, les discours
vous inquiètent là, que vous décrivez en creux.
Voilà. Notamment, c'est-à-dire que les discours identitaires, les discours de resserrement sur une identité qui est d'ailleurs une identité close et figée, contribuent beaucoup à ce processus de fragmentation. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il contribue au fond, cette sensibilité à l'égard du proche dont on parlait au début, elle n'est pas expansive, si je puis dire. Elle ne s'étend pas, elle ne se généralise pas. Au contraire, elle est excluante par rapport au lointain.
J'aimerais vous faire entendre l'extrait d'un texte de Norbert Elias, La leçon de sociologie, enregistrée en 1975.
I have all along feeling that men today...
J'ai toujours eu le sentiment que les hommes, hier comme aujourd'hui, n'ont pas vraiment fait la paix avec leur propre animalité. Le processus de civilisation que nous avons subi consiste à tenter de réprimer notre animalité, très souvent, cruellement, et de la dissimuler autant que possible. Si vous observez ces animaux déguisés qui déambulent dans la rue, ces êtres humains déguisés, vous prenez conscience que nous cherchons plutôt à réprimer ou à nous cacher à nous-mêmes notre animalité, plutôt qu'à la gérer pour mener une vie humaine. Je devrais peut-être l'exprimer ainsi. Nous naissons animaux, mais pour devenir humains, nous devons faire un effort. Et cet effort n'implique pas de réprimer, mais seulement de contrôler, dans une certaine mesure, notre animalité. Je pense que ce problème de la transformation d'animal à être humain est un problème auquel nous devons faire face plus directement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Cela inclut par exemple l'agressivité, le fait de s'entretuer comme des animaux. Nous ne pouvons pas vivre une vie raisonnable les uns avec les autres en tant qu'être humain, à moins d'être capable d'exercer un certain contrôle sur soi-même. Mais il est tout aussi vrai que très souvent, ces contrôles sont intégrés aveuglément, si fortement, si intensément, qu'ils anéantissent le droit légitime de l'individu à la jouissance de soi, à l'excitation plaisante qui fait partie intégrante de notre vie.
En quoi ce processus de civilisation des mœurs que décrit Norbert Elias est fondamental peut-être pour saisir la place des émotions en politique, Myriam Revaud-Allonne?
Tout à fait, parce que ce que analyse Elias, c'est à la fois la transformation des structures politiques de la modernité, c'est-à-dire que, au fond, l'émergence d'institutions comme l'État qui détiennent le monopole de la force légitime et qui donc retire aux individus l'usage de la violence. Et Elias analyse au fond le développement corrélatif des institutions politiques, de plus en plus organisées, rationalisées si vous voulez, et le développement corrélatif des sensibilités, c'est-à-dire de la capacité au fond humaine à contrôler la violence et la violence pulsionnelle. Moi, j'ai quelques réserves sur l'usage du terme animalité, mais bon, c'est un autre problème. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le processus de civilisation, c'est à la fois un processus politique, rationnel, intellectuel, et en même temps, un processus mental, psychologique, sensible. À tel point que Elias dit quelque part à un moment, celui qui essaye de travailler et d'analyser l'évolution de l'humanité de façon, en analysant simplement l'évolution des institutions sans s'intéresser aux sensibilités, il dit celui-là ne comprend rien. Ne comprend rien à la dynamique de la civilisation. Mais par ailleurs, contrairement aux usages abusifs qu'on a pu faire récemment de la décivilisation, Elias ne pense absolument pas ni que la civilisation, le processus de civilisation est réservé à l'Occident. Bon, bien sûr, il a analysé ce processus en Occident, mais il n'exclut absolument pas que ce processus est court et peut-être sous d'autres formes dans d'autres civilisations. Deuxièmement, il ne considère pas que c'est un progrès linéaire. Il parle de rupture civilisationnelle, à propos du nazisme notamment.
Il dit qu'il n'y a pas d'acquis également.
Il n'y a pas d'acquis, absolument, il n'y a pas d'acquis. C'est pour ça qu'il parle de rupture potentielle et possible. Et par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'il analyse le nazisme à la fois comme un système où s'est combiné la rationalité industrielle et instrumentale la plus forte avec l'insensibilité ou l'insensibilisation par rapport à l'autre, bon, aux juifs ou aux tziganes, c'est-à-dire qui a conduit, et ça c'est une sorte de, c'est plus qu'un paradoxe, c'est un oxymore, bon, d'une certaine façon. Et alors, pour parler de notre époque, moi ce qui m'inquiète effectivement beaucoup, c'est la possibilité que des ruptures civilisationnelles puissent toucher également, au fond, notre présent, aussi bien avec ce qui est en train de se passer dans l'Amérique de Trump, qu'au fond même en France actuellement, avec des processus d'exclusion qui, d'une certaine façon, font sortir de l'humanité. Je pense à des expressions extrêmement violente, comme l'expression de submersion migratoire. Ce qui est très intéressant dans l'expression de submersion migratoire, c'est que ce sont des éléments naturels. Hein. On parle, on parle de vagues, c'est une catastrophe naturelle. Donc il y a une manière ici de un mode de déshumanisation, quels que soient par ailleurs les problèmes que politiquement pose l'immigration, c'est un autre problème. Mais c'est un vocabulaire qui en dit beaucoup sur le lieu réel où se trouve la rupture civilisationnelle.
Merci beaucoup.
Qui ne vient pas des barbares d'ailleurs, mais qui vient de l'intérieur de nos sociétés.
Les barbares, ce sont ceux qui croient à la barbarie.
Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais...
C'est ce que disait Lévi-Strauss.
C'est ça, c'est Lévi-Strauss.
Merci beaucoup, Myriam Revaux-Dallon. Je rappelle que vous êtes philosophe. Je rappelle également le titre de votre ouvrage, Passion publique, qui est aussi une forme d'appel au cœur pensant. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé et pensé cette émission avec moi. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, Juliette Moëlic à la réalisation, Léa Racine.